Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous arrivons à l'étude numéro 45. Le titre pour aujourd'hui sera « Le ministère de l'Église auprès des malades ». Mais avant, je voudrais dire quelque chose. On n'a pas le droit d'être fanatique et d'exagérer. Nous devons être réalistes, car aujourd'hui, nous ne vivons pas du tout dans la même ère saine qu'ils avaient en ce temps-là. L'air est pollué terriblement, puisque au temps de Jésus, il n'y avait pas des milliers d'enfants qui avaient de l'asthme. Aujourd'hui, oui. Il n'y avait pas des aliments qui avaient des traces de toutes sortes d'éléments chimiques et de colorants et de toutes sortes de choses qu'il n'y avait pas au temps de Jésus. Au temps de Jésus, il pouvait manger des poissons sans avoir aucun problème. Aujourd'hui, dans certaines régions, ce n'est plus possible. Ou si on pourrait allonger la liste encore longtemps sur la différence du temps de Christ et du temps d'aujourd'hui. Donc, je pense que je peux dire, vu mon grand âge, que j'ai quand même accumulé une certaine connaissance de tous ces problèmes qui n'existaient pas autrefois. Voyez-vous, prenons un exemple. Vous avez, supposons, une bonne voiture neuve. Les premiers 5 ans, vous avez peu de problèmes. Ensuite, certaines parties de la voiture commencent à s'user. Eh bien, sans tenir compte de tout le changement épouvantable d'aujourd'hui par rapport à autrefois, notre enveloppe humaine n'échappe pas à certains processus. Ça peut être une dent, un œil, un genou, une hanche ou un problème du dos, comme c'est mon cas, avec le canal lombaire coincé. Je peux vous dire que ça, c'est pas drôle du tout. Il faut beaucoup de foi pour pouvoir tenir le coup et beaucoup d'amour dans le Seigneur qui nous aide chaque jour. Chaque jour, il aide pour pouvoir tenir le coup. Donc, sans compter les blessés de la guerre, ceux qui sont nés infirmes, il y en a. Toutes sortes d'handicapés divers. Voyez-vous, un enfant de 4 ans qui est entre la vie et la mort à l'hôpital, il y en a aujourd'hui des centaines de milliers, ce qui n'était pas du tout le cas au temps de Jésus. Cet enfant n'a pas fait exprès. Par contre, il est vrai que les parents qui ont pratiqué des choses défendues, Dieu peut punir les descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Bien qu'il est de notre devoir de prier pour les malades, on a même vu, et j'en connais, des grands malades qui ont un très grand amour pour Christ et qui sont un témoignage pour d'autres que beaucoup de chrétiens très bien portants n'ont pas. Tout cela devrait nous donner à réfléchir. La Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est quelques lignes de l'Écriture sainte qui est la Bible, plus précisément de l'Épître de Jacques. Ces lignes s'adressent à vous, malades, qui êtes sur un lit de souffrance. On peut bien le dire que c'est des fois des lits de souffrance. Elles s'adressent à vous également, qui, ayant un membre de la famille gravement atteint, êtes troublé par la situation de maladie de votre père, de votre mère, d'une sœur, d'un frère ou de qui que ce soit de votre entourage. Ces quelques mots s'adressent donc à quiconque se sent concerné de près ou de loin par la souffrance humaine. Nous apprenons la tendance de tout malade à se replier sur eux-mêmes, sur lui-même. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord le fait que par son état de maladie, il soit souvent retenu chez lui, incapable de se déplacer. Cela entraîne une certaine privation de la vie sociale et communautaire. Cet isolement est parfois aggravé par les réactions d'inquiétude ou d'incompréhension que peuvent avoir à son égard les bien portants. D'autres raisons, plus personnelles et intérieures, favorisent également ce repliement sur soi. Ce sont certaines difficultés d'acceptation d'un mal souvent ressenti comme étant une injustice ou un châtiment. Il n'est pas étonnant, dès lors, que le malade, souvent, se culpabilise, s'accuse de telle ou telle faute et manifeste une certaine honte qui l'enferme encore davantage dans sa solitude. Il se comporte un peu comme un animal qui, blessé, cache sa souffrance et va périr en secret. L'invitation lui est adressée aujourd'hui de sortir de cette solitude. Il est invité à appeler les anciens de l'Église, c'est-à-dire les représentants de la communauté chrétienne à laquelle il ou elle appartient. Il ou elle doit tout mettre en œuvre pour sortir de cet isolement. Il est nécessaire de souligner ici la dimension sociale et communautaire de l'homme. Il a été créé à l'image de Dieu, et Dieu n'est pas un Dieu solitaire, mais un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul ? Et dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Il créa homme et femme, constituant ainsi la première cellule de la communauté humaine. L'homme, selon Dieu, vit dans une relation parfaite avec son Créateur et avec son semblable. Sa santé dépend dans une grande mesure de la qualité de ses relations qu'il a avec Dieu d'une part et avec tous ceux de son entourage d'autre part, ceux qui lui sont le plus proches, tels que les membres de sa famille, ses camarades de travail, ses voisins, ceux qui habitent dans la même maison. Il s'agit donc que pour le malade, on peut bien dire qu'il est invité à voir ses relations mutuelles. Car le groupe tout entier doit accepter de s'examiner à la lumière de l'amour du Christ. La confession prend alors une dimension communautaire permettant ainsi à la grâce de Dieu d'opérer avec puissance dans et au travers de la communauté. Dans cette attitude de repentance, de réconciliation et de solidarité, pourra donc s'inscrire la prière de la communauté en faveur du malade. Soit dit en passant, cette prière est d'autant plus nécessaire que la situation de maladie présente le double caractère d'une épreuve. Le malade est réellement en danger, et dans ce cas, il est impensable de le laisser livrer à lui-même. La prière de la communauté chrétienne pour le malade peut être accompagnée d'un geste concret qui lui donnera une intensité toute particulière. L'imposition des mains permettra de manifester la solidarité de toutes et de tous en prière avec le malade. L'onction d'huile, par exemple, dont parle le texte que nous avons cité dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, eh bien, l'onction d'huile est un signe de la guérison que Dieu accorde aux malades, guérison à comprendre ici, dans son sens large, de plénitude de vie, de relations retrouvées, qui se traduit souvent dans une guérison du corps. Il est bien entendu que ni l'imposition des mains ni l'onction d'huile n'ont d'efficacité par elles-mêmes. Il ne faut pas prendre ces choses comme une sorte de talisman. Et ces gestes, ils n'ont rien de magique non plus. Ils n'ont de sens et d'efficacité que dans la mesure où ils expriment une réalité profonde, c'est-à-dire pour l'imposition des mains, c'est celle d'une véritable communion avec le malade, et pour l'onction d'huile, c'est celle d'une foi totale en la puissance de résurrection du Christ. La personne, donc, elle peut croire que la promesse de Dieu, elle est faite, et soulignez-le bien d'une façon bien précise. Ce n'est pas simplement un geste, l'imposition des mains ou l'onction d'huile, mais c'est quelqu'un de beaucoup plus profond. Et surtout que la prière qui est prononcée dans la foi au nom de Jésus-Christ va être efficace. Cette parole de l'Écriture sainte vous rejoint très pratiquement. Tous ceux qui connaissent et qui ont connu le malade, eh bien, ils savent que par les meurtrissures de Jésus-Christ, il y a la guérison. C'est une évidence. Chers amis, je comprends qu'on puisse dans bien des cas être révolté et s'indigner devant le silence de l'infini, par exemple la mort injuste, la souffrance des innocents. Il y a autour de nous des abîmes de souffrance, et si nous n'avions pas cet enracinement dans l'Écriture sainte, qui est la parole de Dieu, nous serions comme un fétu de paille, tout simplement emporté par la détresse de ceux que nous côtoyons. Nous rencontrons cette souffrance aussi dans l'Écriture sainte. Pourquoi cette souffrance est-elle souvent comme une sanction sur la vie? Pourquoi est-elle parfois comme une sorte de fatalité qui heurte, qui suit une destinée et l'achève? Je pense à l'épisode de la tour de Siloé dont nous parle Jésus. Cette tour qui s'était écroulée sur tout un groupe de Galiléens et les avait écrasés, était-il coupable ou ne l'était-il pas? Et pourquoi au Guatemala ou au Frioul ou en Syrie et dans beaucoup d'autres pays, ces dizaines de milliers de gens, victimes parfois innocemment de guerres idiotes que un bon nombre de la population ne comprend même pas, sans compter les cataclysmes naturels aujourd'hui qui se multiplient. Pourquoi tel de nos amis ou tel membre de notre famille est percuté sur la route dans des conditions d'innocence? Il y a eu un imprudent quelque part, et voilà, la fatalité frappe des innocents, alors que bien souvent le coupable, il ou elle s'en tire à bon compte. Oui, ce qui me désole, c'est de voir que même parmi les croyants, on ne sait pas vivre le problème de la souffrance et de la maladie. On ne sait pas se ressaisir et prendre pied sur les fondements qui nous sont donnés dans l'Écriture sainte. On ne sait pas retrouver un appui dans le domaine de la foi ou de la communauté de l'Église qui est le corps de Christ. Une telle richesse, elle nous est donnée dans l'Écriture sainte. Elle est si bien exprimée, en particulier par l'apôtre Paul, et on ne sait pas s'en servir. La maladie isole les gens. La maladie les transporte à l'intérieur de l'hôpital, entre les quatre murs d'une chambre. La maladie les coupe de leur milieu et les oblige à entrer en contact avec des gens qu'ils n'ont jamais connus auparavant. Alors si on n'a pas cheminé avec ce problème avant d'être hospitalisé, si on ne s'est jamais dit auparavant, peut-être qu'un jour je serai malade, que je serai visité par ce grand mystère, on est complètement perdu. Et je pense que c'est un signal d'alarme qui est la maladie, si peut-être, va savoir, nous avons mal agi. C'est quelque chose qui est difficile à constater et à accepter. La souffrance revêt donc là un aspect positif, mais hélas, elle est bien autre chose aussi. Enfin, disons très simplement que je prie de toutes mes forces pour que ceux qui entrent à l'hôpital soient spirituellement armés pour ce combat terrible de la souffrance. Chers amis, quel sens la révélation biblique peut-elle nous donner dans ou de la souffrance? Je crois qu'elle donne une vision de la souffrance comme étant le fruit d'une certaine façon de nous conduire. Si nous souffrons, c'est qu'il y a eu quelque chose de mal géré dans notre existence. Je dis peut-être, pas toujours. Il serait assez banal de dire que si j'ai une cirrhose du foie, c'est que j'ai peut-être pas bu uniquement de l'eau plate. Ou bien si j'ai une indigestion, c'est certainement pas parce que j'ai jeûné. Mais cela reflète assez bien la réalité des choses. On a voulu faire des heures supplémentaires. Et cela afin de se payer une belle voiture neuve ou peut-être une résidence à la campagne ou peut-être un voyage que on a longtemps eu dans le viseur de notre pensée. Et l'on y a abîmé ainsi la santé en travaillant 12 heures par jour, si ce n'est pas plus. Et le résultat en fait d'heures supplémentaires et de bénéfices. Le résultat est qu'on a parfois perdu le sommeil ou on est frappé d'un infarctus du myocarde. Et ce qui nous a amené à l'hôpital, c'est un mauvais usage de ce corps qui est si précieux et qui nous a été donné. Je voudrais que l'on se préoccupe d'une théologie du corps, que les théologiens offrent quelque chose de consommable sur le plan à tous les membres de l'Église. Oui, sur ce plan-là, il faut vraiment étudier les Saintes Écritures. Notre corps, voyez-vous, notre corps est une merveille qui nous a été offert et nous en sommes responsables. Mais nous en faisons souvent un mauvais usage. Comment conduire harmonieusement notre santé physique, mentale et spirituelle, c'est-à-dire la personne toute entière? Si nous sommes hospitalisés, c'est peut-être pour avoir négligé tel ou tel aspect de notre responsabilité vis-à-vis de notre corps. Aimons donc ce corps dans sa manière, mais aussi dans son esprit. En effet, l'Écriture sainte dit bien que ce corps ressuscitera, qu'il est intimement lié à notre âme et à notre esprit, et que notre personne fait un tout. Il ne faut donc pas s'imaginer qu'au moment de la mort, l'âme s'envole comme un petit oiseau. Notre être fait un tout devant Dieu le Créateur, et nous devrions y penser alors que nous gérons les 50, 60 ou 80 ans d'existence qui nous sont donnés. Nous avons donc le devoir de prendre soin de notre santé physique et de notre santé spirituelle et ainsi préparer le moment de notre comparution devant le Seigneur. Car nous comparaîtrons devant le Seigneur, et cela avec un corps spirituel. Je ne sais pas comment il sera, mais je sais que l'Écriture sainte en parle. Du reste, je ne sais si j'y serai, mais je sais que je connaîtrai Dieu comme il me connaît, que je le verrai comme il me voit, et que j'aurai une existence pleine et parfaite, telle qu'il a voulu, et telle que malheureusement, par suite de l'emprise du mal sur le monde, je ne peux l'avoir ici-bas. Ma vie est limitée. Je suis donc limité par ce que la Bible appelle le péché et qui est tout simplement le fait de vouloir bâtir sa vie sans Dieu. Quelqu'un m'a demandé un jour, n'y a-t-il pas caché dans le mystère de la souffrance une sorte de voie spirituelle ? Eh bien, je pense que la souffrance, elle peut effectivement renfermer une bénédiction. Elle peut amener à une découverte verticale, en quelque sorte, une découverte extraordinaire qui dépasse ce que l'on peut imaginer. J'aime penser à certains de ces malades, des gens qui souffrent de maladies chroniques, qui sont hospitalisés depuis très longtemps, des tétraplégiques, par exemple, qu'il n'y avait pas autant de tétraplégiques au temps de Jésus, car il n'y avait pas des motos qui font plus de 200 à l'heure. Je pense à des paralysés, même des quatre membres, n'ayant plus que la tête présente, ou des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, en souffrant d'artérite au point d'être amputées des deux jambes. Je pense à des malades de Alzheimer et d'autres terribles maladies aujourd'hui qui n'ont pas existé au temps de Jésus. Lorsque nous tenons des réunions, nous disons non à la résignation. Ne vous résignez pas. Luttez. Bien sûr, c'est plus vite dit que fait. Je suis d'accord. Nous combattons quand même. Nous sommes des hommes dressés dans leur dignité, malgré divers handicaps. Voici ce que disait pour moi vivre. Il est dit, pour moi vivre, c'est comme un secret, comme un monastère, on peut dire, dans lequel je peux constamment me promener par la prière et par le recueillement intérieur. Vous pouvez prier silencieusement, même dans votre pensée, et vous recueillir intérieurement, n'importe où, dans une chambre d'hôpital, n'importe. Oui, voyez-vous, la vie, elle n'est pas facile pour personne. Donc, un homme qui était physiquement sans recours, aucun recours apparemment, avant même de mourir, il était tout seul. Il vaudrait mieux ne pas être tout seul. Là aussi, c'est plus vite dit que fait. C'est terrible de se trouver seul dans la maladie. Mais sachez que vous ne serez jamais tout seul si vous avez Jésus-Christ qui va être à vos côtés. Et cela est une réalité, c'est possible. Moi, j'y crois de tout mon cœur. Je vous ai parlé de ce grand malade, complètement paralysé, qui témoignait aux autres de l'épanouissement et de la libération qu'il avait trouvé en Jésus-Christ. Mais il en a d'autres aussi qui ont vécu des aventures hors du commun. Je vous ai dit déjà combien je suis désolé de constater que les chrétiens savent si mal se servir des moyens de grâce que l'Écriture sainte et que la communauté de l'Église leur offre pour lutter dans la maladie. Cependant, voici un témoignage authentique. Écoutez bien. Dans un hôpital de grands malades chroniques à Paris, au service de cardiologie, deux personnes sont venues de province pour se faire opérer par un grand patron. Il s'agissait d'une opération à cœur ouvert et durant la période préparatoire, ces deux malades ont fait connaissance et ils ont découvert qu'elles étaient toutes les deux croyantes. Et elles se sont dit, nous avons quelque chose à faire. Nous sommes là deux chrétiennes. Nous pouvons nous entraider. Et elles se sont donc mises à lire ensemble quotidiennement un passage de l'Évangile, ce qui les a stimulées et encouragées. Puis alors qu'elles faisaient cette lecture, elles se sont aperçues qu'une aide-soignante passait de temps en temps le nez par le carreau et observait ce qu'elles faisaient. Et un jour, elle leur a dit, « Moi aussi, quand je suis trop fatiguée, je vais dans un coin de la lingerie, j'ouvre mon Nouveau Testament et j'en lis un passage, car cela me redonne des forces pour poursuivre le combat, pour aider les malades. Ainsi, trois chrétiennes se sont retrouvées du côté de la maladie et du côté des soignants pour communiquer ensemble. Mais il y avait aussi deux personnes de la paroisse voisine qui sont venues visiter ce service et ayant découvert l'existence de cette petite communauté chrétienne, elles ont informé l'aumônier qui a été invité à son tour. Il y avait donc là six personnes, deux grands malades, une soignante, deux visiteuses et un pasteur. Alors un jour, ils ont dit « Mais pourquoi ne célébrerions-nous pas la Sainte Communion, la Sainte Cène, ensemble ?» Après tout, le Seigneur a dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'obtenez. Croyez que vous l'obtenez. Pourquoi ne prierions-nous pas pour la guérison de nos malades et même pour tout le service? Et ces quelques chrétiens ont formé ainsi une véritable petite communauté de guérison et de prière qui a vécu de l'Évangile et intercédé pour les autres, les malades et pour les soignants. Cela a duré 3 mois. Et entre-temps, l'opération a eu lieu, une grande opération pratiquée par un célèbre professeur. Puis avant le départ de ces deux malades en maison de repos, il s'est passé quelque chose de totalement inhabituel. Elles ont reçu la visite du médecin, accompagné du médecin chef de service et de toute son équipe, la surveillante, l'assistante sociale, etc. En tout, une quinzaine de personnes qui sont venues dans leur chambre avec des bouteilles de jus de fruits et de champagne sous le bras et disant « Avant que vous partez, nous aimerions vous dire combien nous avons été sensibles à votre témoignage de bonne humeur et d'entente et combien nous avons été reconnaissants. Le professeur qui les a opérés n'est pas du tout croyant, mais il a reconnu finalement qu'il y avait la présence de Jésus-Christ au milieu de ce petit groupe de chrétiens. C'était assurément un très beau témoignage qui est rendu à cette communion extraordinaire qu'elles avaient vécue ensemble. De l'extérieur, il est vrai, on connaît peu de choses concernant l'hôpital quand on n'y a jamais été. Et ce qui se joue entre les murs de l'hôpital, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Que faudrait-il faire pour ce que ce monde clos de l'ensemble hospitalier soit percé, que la vie y passe plus librement et que l'expérience qui nous anime puisse se manifester pleinement. La maladie suscite une réaction. Elle a un aspect guerrier, si vous voulez. C'est vraiment une guerre. Il faut se battre. Et il faut avoir cette réaction. C'est absolument indispensable. Il faut lutter comme jamais, même quand tout est difficile ou compromis, même lorsque on va vers l'issue fatale. Il faut lutter, le regard dressé face à l'avenir, car il y a toujours un avenir. Il faut bien s'enfoncer cela dans notre tête. Même lorsque on est au service de réanimation ou qu'on arrive au dernier souffle, il y a toujours un avenir. Comme le dit l'Écriture sainte, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour. Il se lèvera. Il aura toujours le dernier mot. Le dernier mot qui est prononcé sur notre vie, sur ta vie. C'est Jésus-Christ qui le dit. Ce n'est pas nous, ni le médecin, ni l'aumônier. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le maître. Et cela, il faudrait vraiment l'annoncer. Il faut le dire. Il faut se battre pour que le ghetto soit aéré, que le combat de la maladie, le combat pour la guérison, soit ensemencé de cette espérance qui lui donne un sens. Parce qu'il ne suffit pas de lutter pour rendre à la société de consommation des ouvriers ou des consommateurs. Il n'est d'ailleurs point besoin d'être croyant pour faire cette remarque. Des médecins eux-mêmes le disent. On nous tient pour des garagistes du corps humain et nous ne faisons que raccommoder des tôles froissées ou des tuyaux crevés. Non, il faut vraiment que les malades comme les soignants, tous, soient conscients qu'il y a toujours une dimension d'avenir. Je lâcherai peut-être un mot sauvage. Il faut annoncer à l'intérieur de l'hôpital une échatologie de la vie, car il y a un avenir, il y a une raison d'être. Il faut toujours être tendu vers l'accomplissement d'une pleine dignité humaine. Nous vivons en ce moment dans la souffrance et la difficulté, mais un monde nouveau est annoncé et nous devons le préparer par notre service d'amour du prochain, de justice, d'entraide, de fraternité humaine. Cela peut sembler illusoire quand on voit des conflits comme ceux qui agitent certains pays et tant d'autres endroits qui sont ainsi témoins de la contradiction flagrante de la vie. Mais il ne faut pas tirer l'échelle. Il faut persévérer, car nous avons une promesse de Dieu et elle sera tenue, on peut dire vraiment, elle sera tenue. Il y aura, en effet, croyez-le, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, où il ne se commettra plus aucune violence. Il faut y croire et il faut lutter dans cette espérance. Soignants, soignés, visiteurs d'hôpitaux ou de paroisses, sachez que nous devons tous combattre dans une grande solidarité. Et je voudrais vraiment que cet appel soit entendu. Il y a un sens à la souffrance. Il y a une espérance pour notre vie. Saisissons-la. Oui, il est de notre devoir de communier avec les souffrants. C'est là que se trouve la citadelle de notre égoïsme, une citadelle qu'il faut renverser pour que, à travers nous, ce soit le Christ victorieux qui aille à la rencontre de nos frères et sœurs pour bâtir ce monde nouveau, qu'il édifie lui-même. C'est Christ qui édifie ce monde nouveau, incognito, en secret, pour le moment. Mais c'est une sérénité, c'est une joie pour nous de savoir que c'est lui, Jésus-Christ, qui travaille et qui subvient à nos faiblesses, à nos insuffisances. Quant à nous, nous devons nous effacer, faire tomber notre égoïsme et lui laisser à Jésus-Christ toute la place. Oui, espérons en effet que nombreux seront ceux qui répondront avec foi à l'appel du Christ pour s'engager avec joie dans cette voie d'amour et vivre désormais l'expérience personnelle et quotidienne de son salut éternel. Je pense que si Dieu nous a donné la santé et la possibilité de faire quelque chose pour notre prochain, il est donc de notre devoir de le secourir, de l'aider au mieux de nos possibilités et de lui donner espoir. Et cela surtout quand on a quelque chose à donner, qu'on peut dire aux autres que Dieu est amour, qu'il les comprend et qu'il veut les aider. Rien n'est impossible à celui qui croit en la puissance du sang de Jésus-Christ. Chers amis, ce que je vais vous dire pour terminer, vous pouvez le répéter vous-même. Si vous êtes très malade, tous les jours, vous pouvez prier en variant les mots, les phrases, selon ce qui vous concerne personnellement. Et croyez-moi, le Seigneur Jésus vous conduira, vous aidera, car Jésus-Christ est une réalité. Voyez-vous, la victoire finale elle se trouve toujours dans le sang de l'agneau. On n'aime pas beaucoup en parler, parce que parler du sang, ça fait peur, mais ça ne devrait pas. Une jeune femme très malade, nous allons l'appeler Anna. Anna dit, j'aimerais une prière sur le sang de Jésus, une prière que je pourrais toujours présenter devant Dieu. La victoire, elle est et elle se trouve dans le sang de l'agneau. Je suis tellement faible de caractère. J'ai besoin du sang de l'agneau contre les assauts de l'ennemi et de mon péché. Aussi, j'ai satisfait sa demande avec joie. Et son visage rayonna lorsque je lui ai tendu la feuille où j'avais écrit cette prière sur le sang de Jésus-Christ. Elle s'éloigna en serrant cette page contre elle comme un précieux trésor. Voici cette prière pour Anna. Seigneur, je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon corps, qui guérit les faiblesses de mon âme et qui guérit les faiblesses de mon esprit. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner, dans sa puissance de purifier, dans sa puissance de délivrer, dans sa puissance victorieuse, dans sa puissance de rendre toute chose nouvelle, oui, dans sa puissance de protéger. Rien n'est impossible à celui qui croit en la puissance du sang de Jésus-Christ. Je loue donc le sang de l'agneau, ce sang qui couvre tous mes péchés, de sorte qu'on ne les voit plus, qui me purifie de tous mes péchés, de sorte que je suis blanche comme la neige, dans lequel est la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes du péché, qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Le sang de Christ qui a la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Ce sang de Christ qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et qui me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Chers amis, continuez de prier, oui, aussi pour tous ceux que vous connaissez qui sont malades, pour ceux qui sont malades dans vos familles et autour de vous. Amen. Amen. Chers amis, merci de votre patience et de votre intérêt pour écouter ces études. À demain matin, Dieu voulant, À bientôt. Soyez bénis. Au revoir.